Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, excellent réveil à vous tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une contestation toujours élevée, mais la crainte de nouvelles tensions. Voilà dans quel contexte démarre la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés. Les jeunes dans la rue ce matin, ils sont appelés à bloquer leur lycée RMC devant un établissement touché ce matin. Et puis les Bleus qui se sont imposés dans la douleur hier soir 1-0 en Irlande avec un boulet de canon du défenseur Benjamin Pavard.
Et notez à 8h30 l'invité politique, ce sera la députée La France Insoumise Mathilde Panot, chef du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Manifester ou rester à la maison, c'est le dilemme ce matin pour un grand nombre de Français.
Oui, la contestation ne s'essouffle pas. Dans les dernières enquêtes d'opinion, 7 Français sur 10 sont toujours opposés à la réforme. Le renseignement territorial attend jusqu'à 900 000 manifestants dans les rues aujourd'hui, encore plus que jeudi dernier. Mais il y a la crainte que ça dégénère cette fois encore, d'où le questionnement de certains manifestants. À Nantes, nous raconte Marion Gauthier pour RMC.
Ce qui était une vitrine encore au sol, des panneaux de bois pour barricader certains commerces.
On est étonné de cette violence, quoi.
Si elle est opposée à la réforme des retraites, Célia craint les manifestations.
J'aimerais soutenir les gens qui vont manifester. Après, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Voilà. Il y a de gros dispositifs qui sont mis en place quand même et du coup, ça dégénère. Puis il y a aussi les Black Blocs. Enfin, c'est risqué d'aller manifester aujourd'hui.
Mais ces jeunes parents iront défiler à distance du cortège.
Ça va vite, les lacrymos, surtout en ce moment.
Ouais, c'est plus ça qui freinerait. Et où est-ce qu'on se met dans le cortège? Est-ce qu'on se met à côté des syndicats? Est-ce que c'est plus sûr?
Pour les dégradations, pas de justification, mais une explication.
Évidemment, je ne souhaite pas ça personnellement. Maintenant, la colère, elle est là, elle s'installe depuis un petit moment. On en a un peu marre de manifester pour rien. Et donc, moi, je comprends que la colère, elle s'extériorise par des jets de pierre, par des incendies de poubelles, etc.
Sentiment partagé par Jérôme, un gardien d'immeuble.
Mais bien sûr, ouais, il faudrait plus de calme, il faudrait moins de casse. Ça décrédibilise le mouvement, forcément. Le vrai sujet, c'est le message. C'est qu'on ne veut pas bosser jusqu'à la fin.
Moins de défilés, plus de blocages, s'interroge-t-il, pour mieux crier l'opposition à la réforme des retraites, écrite sur de nombreux murs de Nantes.
Et pour encadrer les 150 manifestations au moins annoncées aujourd'hui, 10h30 à Marseille, 14h à Paris, Marion Dubreuil du service police-justice à RMC, il y aura un dispositif de sécurité inédit depuis le début du mouvement. 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris.
Oui, avec une crainte de débordement accrue, les syndicats évoquent la radicalisation de certains de leurs adhérents, tentés de rejoindre des groupes aux actions violentes sans aucun contrôle syndical. La police prend donc un maximum de précautions avant la manifestation à Paris. Les policiers vont inspecter les abribus, poubelles, bancs publics, chaque recoin du parcours pour s'assurer qu'aucune arme n'a été cachée au préalable. C'est une stratégie connue des Black Blocs pour éviter les contrôles et s'armer pendant la manifestation. Les plus radicaux seront encore présents sur les rassemblements de fin de soirée, comme jeudi dernier, avec pour objectif, d'après les renseignements, d'épuiser les forces de l'ordre.
Et l'autre particularité de cette 10e journée de mobilisation qui commence, c'est la participation accrue des jeunes.
Oui, ils pourraient être 2 à 3 fois plus nombreux dans les cortèges aujourd'hui. Indignés par le recours au 49-3, les jeunes sont particulièrement remontés contre la répression et les violences policières, notamment depuis les affrontements de ce week-end à Sainte-Soline, au cours desquels un manifestant de 32 ans a été grièvement blessé à la tête. Il est toujours hospitalisé entre la vie et la mort.
Et des jeunes, tiens, qui se mobilisent ce matin, quelle sera l'ampleur de leur mobilisation? C'est un des enjeux que l'on va suivre toute cette journée spéciale sur RMC, sur notre site internet rmc.fr. Vous n'allez rien rater. Nicolas Repère, vous êtes en direct pour RMC ce matin devant le lycée Jean Massé de Vitry-sur-Seine. C'est à côté de Paris, un lycée qui est bloqué ce matin.
Oui, une vingtaine de lycéens est réunie depuis quelques minutes devant les grilles de ce lycée. Ils ont réuni des poubelles qu'ils utilisent pour empêcher les autres élèves de rentrer. Gwen est avec moi, vous êtes le représentant du syndicat lycéen FIDEL. Vous pensez que la mobilisation des étudiants peut être déterminante?
Bien sûr, on le voit bien, le gouvernement a extrêmement peur de cette mobilisation des jeunes. Et là, cette peur, on est en train de la concrétiser. La semaine dernière, on avait 400 lycées bloqués. Il y a une note du renseignement qui affirme qu'on va peut-être doubler, voire tripler le chiffre. Donc nous, on bloque nos lycées aujourd'hui, on a fait un grand appel unitaire et on va s'attendre à une mobilisation historique de la jeunesse. Évidemment.
Ces lycéens, vous l'entendez comme Gwen, veulent participer à leur manière au mouvement de la lutte contre la réforme des retraites. Ils sont persuadés que ce que les adultes n'ont pas réussi à obtenir, eux peuvent l'obtenir.
Je vous signale que c'est toujours aussi compliqué de faire le plein ce matin dans l'ouest et dans le sud de la France. Jusqu'à 55% des stations sous tension en Loire-Atlantique. Malgré les réquisitions de grévistes, seulement 2 des 7 raffineries du pays continuent de produire. Celle de Gravenchon est même à l'arrêt depuis ce week-end car elle n'est plus alimentée en pétrole brut. Le cap des 100 000 signatures, ça y est atteint sur le site de l'Assemblée nationale pour la pétition demandant la dissolution de la Brave M, cette brigade motorisée au cœur des critiques sur les répressions policières. Une des 8 commissions peut donc désormais se saisir du sujet, mais il en faudrait 500 000 signatures pour que ce sujet arrive dans l'hémicycle. Et alors ça intervient 48 heures après le week-end d'affrontement, on en a parlé à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, où un deuxième manifestant contre les méga-bassines a été placé dans le coma. C'est sa mère qui donne de ses nouvelles et qui témoigne sur BFM TV.
Il a pris un projectile, un LBD, dans le cou côté gauche. Vis-à-vis de ça, il a eu une hémorragie dans la tête, donc du sang dans la tête. Ça y a fait une compression et ils étaient obligés de l'opérer. On a fait Paris, tout, on n'a jamais rien eu, même si on se faisait gazer, mais voilà. Mais là, c'était vraiment de la répression méchante et lui, ce qu'il aime, c'est chanter. Chanter avec les autres, soutenir, pacifiste, il est pas black bloc ni quoi que ce soit.
Il est 7h06 sur RMC, nous devons faire beaucoup plus pour mettre fin aux violences par armes à feu. Voilà ce qu'a dit Joe Biden cette nuit aux États-Unis après une nouvelle tuerie dans une école, cette fois à Nashville, où une personne transgenre, ex-élève de cette école, a tué 3 enfants et 3 adultes, comme le confirme le chef de la police dans cette ville du sud des États-Unis.
Une enquête est en cours et nous rassemblons actuellement plus d'informations, mais nous avons trouvé des cartes de l'école faites à la main, avec beaucoup de détails comme les points d'entrée, la manière dont est surveillé l'établissement, etc. Nous avons également retrouvé un manifeste, des écrits qui parlent de cette fusillade, ainsi qu'une carte qui détaille comment tout cela allait se dérouler.
Et puis c'était une soirée compliquée hier soir pour les Bleus, vainqueurs en Irlande. 1-0 seulement dans la douleur pour l'équipe de France de football grâce à un but du défenseur Benjamin Pavard, un but qui rappelait sa reprise de volée à la Coupe du Monde 2018 grâce aussi à 2 arrêts décisifs en fin de match du gardien Mike Maignan, encore impeccable Arthur Perrault.
Oui, après la rencontre, le défenseur Ibrahima Konaté a encore du mal à réaliser.
Incroyable. Je l'ai envoyé dans les buts, mais je l'ai vu, il a surgi de nulle part, franchement exceptionnel.
Déjà irréprochable avec un pénalty arrêté contre les Pays-Bas, Mike Maignan a encore sauvé l'équipe de France. Son coéquipier Aurélien Tchouaméni.
Pas forcément surpris parce que voilà, je connais les qualités de Mike, il nous le montre depuis qu'il est arrivé en sélection. On est très content de l'avoir parmi nous. Il a démontré le très grand gardien que c'est et c'est bien pour l'équipe de France.
Un rassemblement réussi, de quoi mettre un terme à toutes les interrogation sur la succession du Golioris. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, Maignan a toutes les qualités pour s'installer dans la durée.
J'avais pas de doute ou d'incertitude par rapport à Mike. Évidemment, il y a le relais à prendre. Mike, à partir du moment où il est en pleine possession de ses moyens, c'est du très haut niveau.
Un dernier rempart infranchissable. La dernière fois que les Bleus ont enchaîné 2 matchs sans encaisser de but, c'était en novembre 2021.
Et on reverra les Bleus en juin, seulement en juin, contre la Grèce et contre Gibraltar, tiens, qui a perdu 3-0 pour les Pays-Bas qui se sont relancés hier soir. C'est dans notre groupe de qualification à l'Euro 2024.
Ça me déprime de devoir attendre juin.
Oh, ça devrait le faire quand même.
Oui.
Il y a la fin du championnat, il y a le sprint final. Non, ça va, on va pouvoir.
Il y a des matchs du PSG en attendant, si vous voulez voir.
Ouais. Je sais. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h08 sur AMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Apolline.
Amélie, aujourd'hui c'est Pierre qui vous a écrit.
Oui, Pierre est enseignant dans un lycée professionnel hôtelier à Quimper, atteint de pied bot. C'est une malformation qui le fait beaucoup souffrir. Il est reconnu travailleur handicapé. D'abord contractuel dans l'éducation nationale, Pierre passe le concours de titulaire l'année dernière. À la rentrée 2022, il est envoyé à 600 km de chez lui, à Bordeaux, pour son stage obligatoire d'un an. Il ne désespère pas et se dit qu'à l'issue de son stage, il sera forcément affecté dans son académie et pourra rentrer auprès de sa femme et sa fille. Mais rien ne se passe comme prévu. Pierre est finalement affecté dans l'académie de Nantes à 250 km. Et on entendra.
De toute façon, j'aurais pas pu faire 1500 km aller-retour pour rentrer voir ma petite fille, voir ma femme en Bretagne. Cette année, je l'ai payé sur tous les plans, quoi. Affectif, émotionnel, physique. Financier. Je me suis accroché toute l'année en me disant c'est un sacrifice, mais ça sera bénéfique, il y aura une issue favorable. Il s'avère que le ministère n'a pas ouvert de poste dans l'académie. Ils sont peut-être passés à côté de la particularité de ma situation, de l'urgence de ma situation. Et moi, je demande juste à faire mon métier.
Pierre a donc fait un recours qui doit être étudié la semaine prochaine.
Mais Amélie, en tant qu'enseignant handicapé, il est normalement prioritaire.
Absolument. D'ailleurs, dans le barème de son académie, un système de points qui note les professeurs, Pierre est tout en haut du classement. Donc, en gros, c'est si un poste est ouvert, il est pour lui. Et des places en enseignement hôtelier, il y en a, mais elles sont actuellement occupées par des contractuels. Alors, on a demandé des comptes au rectorat qui nous renvoie vers le ministère de l'Éducation nationale. C'est lui qui ouvre des postes de titulaire ou non, chaque année en fonction des besoins et des ressources. Le ministère nous a répondu hier soir et il s'engage à examiner avec attention, nous dit-on, le cas de Pierre pour voir si une solution peut être envisagée à la rentrée.
Et Amélie, c'est un début de bonne nouvelle pour Pierre, mais qu'est-ce qu'il en est des autres travailleurs handicapés de l'Éducation nationale ?
Alors en termes de handicap, malheureusement, l'Éducation nationale n'est pas vraiment exemplaire. D'abord, elle a très longtemps bénéficié d'un régime spécial et n'est obligée d'employer du personnel handicapé que depuis 2021, alors que la loi oblige toutes les entreprises de plus de 20 salariés depuis 1987 tout de même. Ensuite, le taux d'emploi dépasse à peine les 3,5% en 2020, loin de l'objectif des 6%. Et enfin, pour les enseignants handicapés qui ont réussi à entrer à l'Éducation nationale, tout n'est pas rose. D'ailleurs, il y a un an, 300 d'entre eux lançaient un SOS à Jean-Michel Blanquer, alors ministre, pour réclamer une meilleure prise en compte de leurs besoins. Leur pétition avait récolté 19 000 signatures, mais elle est resté lettre morte. Quelques mois plus tard, c'est au nouveau ministre Pap Ndiaye qu'ils ont adressé un courrier, resté lui aussi sans réponse.
Merci Amélie. Et si vous aussi vous voulez joindre Amélie et son équipe, RMC pour vous à rmc.fr.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
La jeunesse, les lycéens, les étudiants seront-ils davantage dans la rue aujourd'hui? C'est ce que souhaite ma prochaine invitée. Elle est étudiante, elle a 24 ans, elle sera dans la rue. Et avant, elle est le témoin RMC dans ce studio dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sûr RMC.
Le témoin RMC.
Le témoin RMC a 24 ans, Ariane Anemoyanis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante, vous êtes membre d'un collectif qui s'appelle Point Levé, qui appelle à défiler encore aujourd'hui pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et c'est la nouveauté depuis deux semaines, la présence des jeunes, de plus en plus nombreux, dans les cortèges, les jeunes qui étaient plutôt absents des deux premiers mois de mobilisation. C'est quoi l'objectif? C'est de faire la révolution?
Alors déjà, les jeunes, ils étaient dans les cortèges en fait depuis deux mois. Mais après, ce qui est sûr, c'est que le 49-3, il a fait déferler la jeunesse comme jamais auparavant. Il n'y a jamais eu autant de jeunes, non seulement dans la rue, mais aussi dans les assemblées générales. Je pense que c'est des chiffres, il faut le voir, ça atteint les chiffres de la mobilisation 2018 contre Parcoursup. Donc c'est un gros mouvement étudiant et c'est un mouvement qui aussi se déploie dans des universités d'élite, Paris Dauphine, les écoles d'ingénieurs, les Sciences Po, Assas, qui a été bloqué, il faut le voir.
Ça c'est la faculté de droit.
Je sais pas si tous les jeunes veulent faire la révolution. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui chantent Macron démission dans les AG, qui chantent grève, blocage, Macron dégage dans les manifestations. À mon avis, il y a une colère immense de la jeunesse. Je pense que le 49-3 c'était le crachat de trop à la figure des jeunes, mais aussi du reste de la population après deux mois de mobilisation. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Je crois que les renseignements territoriaux, ils ont dit qu'il y aurait trois fois plus de jeunes aujourd'hui. Que la journée précédente qui était quand même déjà une journée historique, massive. Je pense que c'est un mouvement jamais vu depuis presque 60 ans.
Vous restez à la fin des manifestations, vous ?
Ouais, moi j'y reste. Je pense que
quand la police dit c'est le moment, il y a une sommation qui demande à ce que les manifestations soient dispersées et que chacun rentre chez soi. Vous faites quoi, vous ?
En fait, il y a une volonté de...
Non mais vous faites quoi, vous ?
Bah moi je suis restée jeudi, je suis allée en manifestation spontanée les autres jours, j'ai été réprimée par la police aussi parce qu'en fait je voulais aller sur les piquets de grève soutenir les travailleurs parce qu'en fait il y a des phénomènes de jonction entre les travailleurs et les étudiants, ça plaît pas du tout au gouvernement, il veut absolument réprimer, briser cette jeunesse. Donc oui, en fait moi j'ai été aussi victime et témoin des violences policières contre la jeunesse. Je pense que il faut voir à quel
Alors,
point
je vous la question, quand la police dit c'est le moment de rentrer chez vous, vous rentrez pas chez vous?
Bah non, nous on rentre pas chez
pourquoi
nous.
Pourquoi vous le faites pas?
Nous on rentre pas chez
il y a
nous.
Il y a la manifestation, non, vous avez manifesté. En fait, et quand c'est l'heure de rentrer chez soi, pourquoi vous rentrez pas chez vous?
Mais parce qu'en fait, on a compris qu'on n'allait pas s'en sortir avec des manifestations isolées de temps en temps. Et je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui n'ont pas envie de rentrer chez eux. Il y a toute la population. Je pense que vous avez vu que la grève, elle est en train de se durcir, qu'il y a une grève reconductible dans le pays, qu'il y a une volonté d'aller chercher bien plus loin que la réforme des retraites.
La mobilisation, elle est très importante, mais je vous pose cette question-là parce que c'est évidemment dans les fins de cortège.
Ouais, mais
il y a eu ces moments où ça a dégénéré récemment.
Je vais vous donner quelques exemples.
Notamment dans les rues de Paris ou d'autres villes.
Par exemple, nous, on était 1000 en Assemblée Générale à Tolbiac, on a voté une occupation de notre fac, d'accord, en Assemblée Générale. Qui le gouvernement a envoyé encercler notre université? La Bravem. Il était 16h. La Bravem, ce sont les voltigeurs qui roulent
les sur fameux un dont on parle, effectivement.
Qui roulent sur un étudiant en BTS dans la rue, qui fracassent des crânes.
Qui fracassent des crânes?
Bah, vous avez pas vu le travailleur de la RATP qui a eu le crâne fracassé?
Ils fracassent des crânes. Bah, c'est leur objectif de fracasser des crânes.
Bah, il y a deux personnes qui sont entre la vie et la mort suite à des manifestations à Sainte-Soline.
Tout à fait, mais vous dites les Bravem fracassent des crânes. Je voudrais simplement, je vous pose la question, parce que c'est important, vous affirmez des choses. Est-ce qu'ils ont fracassé volontairement des crânes?
Oui, ils tabassent. Il y a plein de vidéos qui le montrent. Ça ne tombe pas seulement sur des étudiants. Il y a aussi deux personnes qui sont entre la vie et la mort suite à des manifestations à Sainte-Soline. Il y a énormément de jeunes qui ont subi des violences policières. Je vous rappelle quand même que la Bravem, c'est quand même les héritiers de la police qui a tué Malikou Sekine en 1986. Je pense qu'il faut le voir. On n'est pas le seul à le dire.
J'ai reçu la semaine dernière Ari Halimi, qui est un des avocats de la Ligue des droits de l'homme et qui exprimait tout ça.
Il dit quand même qu'il a peur pour ses étudiants. Qu'il y en ait un qui est le même sort que Malikou Sekine. Je pense qu'on a un moment où le gouvernement, non seulement il est en train de passer en force une réforme criminelle pour la plupart de la population, la majorité de la population.
Ça veut dire quoi, criminelle? Enfin, c'est des mots très importants. Criminelle, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, des éboueurs et des égoutiers qui ont 17 ans d'espérance de vie en moins que des cadres devront trimer 2 années de plus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne permet pas
à la population de profiter de la vie. C'est très important, dans ce contexte inflammable, de dire les choses de manière précise et assuré. Quand vous dites ils fracassent des crânes, quand vous dites ils sont criminels, sous-entendu avec une volonté de tuer, c'est ça le mot criminel. Est-ce que c'est vraiment ça ce que vous souhaitez dire? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui il y a une volonté de tuer de la part du gouvernement?
Je pense qu'il y a
une
volonté de terroriser la jeunesse. Il y a une volonté de la réprimer au point d'avoir des mutilés. Il y a un cheminot qui a été éborgné. Il y a une AESH qui a perdu un doigt. Il y a deux personnes qui sont entre la vie et la mort depuis ce week-end. Il y a un certain nombre
des forces de l'ordre.
Non mais madame, vous voyez bien qu'il y a une situation de violence, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, il n'y a pas que les révolutionnaires du point levé qui disent niveau de violence
important. Ça fait 2 semaines qu'on parle de la violence des deux côtés, vous ne choisissez qu'un seul des côtés, et ce qui me frappe quand même, c'est que dans ce contexte où en effet tout est inflammable, quand je vous demande, quand la police dit maintenant c'est l'heure de rentrer chez soi, ça vous n'en tenez pas compte, ça ne compte pas à vos yeux.
Mais en fait, vous voyez bien qu'on est dans une séquence, un mouvement qui est en train d'aller chercher bien plus que le retrait de la réforme. Vous voyez bien qu'il y a un niveau de radicalité, d'aspiration profonde, structurelle. Vous voyez bien que les jeunes, ils ne se mobilisent pas uniquement pour le retrait de la réforme. Donc évidemment qu'en fait, il y a une situation dans le pays qui atteint des seuils en fait jamais vus depuis mai 68. Évidemment. Et oui, en fait, les manifestations spontanées de solidarité avec les travailleurs, de pas rester tranquillement chez soi, bah oui, en fait, ça.
Et vous serez très nombreux dans les rues aujourd'hui. C'est ce que vous nous dites ce matin, mais c'est aussi ce que disent d'ailleurs les renseignements généraux qui estiment qu'il y aura au moins 2 ou 3 fois plus de jeunes que lors des précédentes manifestations. Merci d'être venu dans ce studio avant d'aller manifester. Donc, Ariane Anemoyanis, vous avez 24 ans, vous êtes étudiante et membre du collectif Le Point Levé. Il est 7h20 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h20 et dans 20 minutes, Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, sera l'invité du jour. 10e journée de mobilisation et il la commence donc sur RMC. Rendez-vous à 7h40. Avant cela, 2 rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre et puis Arnaud Demange qui pirate le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Mais tout de suite, l'indiscret du service politique d'RMC avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline.
L'avenir de la réforme des retraites est suspendu à la décision du Conseil constitutionnel et c'est une décision très politique qui se joue en coulisses.
Oui, pour rappel, il y a 4 recours, 2 de la gauche, 1 du Rassemblement National et celui de la Première Ministre. Les sages ont jusqu'au 21 avril en théorie, mais ça pourrait aller plus vite parce que le Conseil avait déjà commencé à travailler avant même d'être saisi. À première vue, c'est purement juridique, vérifier la conformité de la Constitution. Mais il y a forcément de la politique. D'abord parce que les 9 membres sont souvent eux-mêmes d'anciens politiques, Laurent Fabius, Alain Juppé, parce qu'ils ont tous été nommés 2 par Emmanuel Macron lui-même, Jacqueline Gourault et Jacques Mézard. Ils décident à chaud, ils ne peuvent pas faire fi des enjeux, confirme une constitutionnaliste. Un député Renaissance s'en méfie. Si Fabius a envie d'abattre le président, il tient là son occasion.
Et quels sont les scénarios possibles?
Alors le plus probable, c'est que certaines mesures soient retoquées parce qu'elles ne sont pas budgétaires. L'index senior, par exemple, ça, le gouvernement gouvernement s'y attend. Mais les sages peuvent-ils aller plus loin en faisant tomber toute la réforme? Ça, c'est le pari de la gauche et du RN qui estiment que la clarté et la sincérité des débats ont été entravés. Tant de débats limités, vote bloqué, 49-3, c'est l'accumulation des procédures qui pose problème, plaide un insoumis. Jamais le Conseil constitutionnel n'a censuré pour ce motif. Mais pour certains juristes, ça paraît tout à fait recevable. C'est la marge d'appréciation des sages. Ce serait casser le quinquennat Macron. Je ne les vois pas aller jusque-là, m'a glissé un fin connaisseur de l'institution.
Les indiscrets du service politique avec Sébastien Krebs.
RMC, Apolline Matin.
7h24, l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel, les comptes publics, eh ben, c'est pas si pire finalement.
C'est pas si pire. Figurez-vous qu'il est quelle heure? Il est 7h24. Nous saurons les chiffres exacts que révélera l'INSEE à 7h30. Mais je peux vous en donner quelques-uns.
Ah, mais il les a déjà.
Puisque, non, mais attendez, j'ai pas de mérite puisque les Échos les a déjà publiés hier soir. Et donc, on apprend que ce sont deux seuils symboliques qui n'ont pas été franchis. Le premier, c'est le seuil des 5% de déficit public, 5% du PIB. On sera en dessous. Et puis, le deuxième seuil symbolique, vous savez, c'est le fameux seuil des 3000 milliards d'euros de dette publique. Eh bien, au 31 décembre, on n'y était pas encore.
Et comment ça s'explique cette relative bonne surprise?
D'abord, des très bonne rentrée fiscale, meilleure que prévu, notamment grâce à l'impôt sur les sociétés. Côté dépenses, il y a eu des décalages de versement de prestations sociales. C'est un peu artificiel, mais ça compte. Bonne nouvelle aussi pour les collectivités locales qui se retrouvent avec un matelas d'épargne plus épais qu'avant la crise du Covid. Un point noir, quand même, la charge de la dette, plus 13 milliards en 2022. C'est le deuxième poste du budget de l'État. Ça vous parle pas, 13 milliards d'euros, 13 milliards, c'est précisément
ce qu'on cherche pour les retraites, non?
Exactement.
Enfin, ce qu'ils cherchent pour les retraites de la dette en... d'ici 2030. Cet argent, on le doit à qui? Les intérêts, on les paye à qui?
Eh ben, la dette française, elle est détenue à moitié par des étrangers. Donc, c'est qui? Bah, c'est les fonds d'épargne des retraités californiens ou des fonctionnaires japonais. Bref, les épargnants de la planète entière. Et puis, l'autre moitié, c'est les épargnants français. C'est la Banque de France en partie, hein, puisque 20% de la dette, pour des raisons techniques, c'est la Banque de France. Et puis après, c'est les compagnies d'assurance et les banques pour leurs clients, c'est-à-dire nous. Si vous avez un peu d'épargne hors livret A, de l'assurance vie, etc., il est quasiment certain que vous détenez, peut-être même sans le savoir, une partie.
On tient la France dans nos mains.
Une partie de la dette française, effectivement.
7h26, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demanche pirate le 32-16.
Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Vous êtes passé par le standard et ce qui fait réagir, eh ben c'est ces hackers, le site internet de l'Assemblée nationale qui a été bloqué plusieurs heures par des hackers pro-russes.
Oui, et ben voilà, des buveurs de vodka ont piraté des buveurs de Jet 27 et donc le site de l'Assemblée nationale a été inopérant, il servait à rien. Comme les députés macronistes, finalement, comme quoi tout s'harmonise. Et ça fait réagir Omar de Colmar, qui nous dit, à mon avis, c'est pas les Russes, c'est les députés eux-mêmes qui ont piraté leur propre site pour pas qu'on voit qui a voté la réforme des retraites, pour pas qu'ils se fassent cramer leur QG, ils en ont marre, alors ils étaient là, oh zut, oh, les Russes ont tout effacé, ah, saloperie de soviétique. Nathan de Lyon nous dit, je comprends pas les Russes. Ils auraient attaqué Deliveroo ou Tinder, ok, ça aurait fait chier du monde, mais le site de l'Assemblée nationale, ça embête vraiment quelqu'un. Poutine, il était là, pendant une heure, ils pourront même pas savoir qui est Jean-Philippe Ardouin ou Edith Audibert. Et hop, je supprime la page de Charles Amédée de Courson, comte d'Apremont et de Papincourt, fils d'Aldebert de Malfait et de Thibaud de Montfaucon. C'est un drôle d'accent russe que je fais. Je sais pas si c'est russe, mais bon, je me débrouille avec ce que j'ai. Hein. Ulysse du 31 de Toulouse nous dit... Dans James Bond, les Russes, ils utilisent des rayons laser de l'espace. Et là, c'est l'équivalent d'interrompre la chaîne parlementaire pendant une heure. Ça a changé, quand même. Et enfin, Caroline du Pouliguen, je comprends pas pourquoi on panique. Les Russes ont déjà hacké tous les sites des administrations françaises depuis un bon moment et tout le monde s'en fout. Et il y a jamais rien qui marche. Le truc merdique pour réclamer la prime d'essence ou Pôle emploi. Ça fait 5 ans qu'il est hacké par les Russes, ce site ou quoi? Même l'autre jour, je regardais Pascal Praud à la télé et tous les intervenants autour de la table, je les écoutais, je me disais, mais ils sont piratés par les Russes eux aussi. Non, ils sont très forts au Kremlin. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Arnaud Demanche. Rendez-vous à 8h20. Il est 7h28. À tout de suite pour la météo de journal. 7h30 sur RMC et RMC Story, le journal de Rémy. Bonjour Rémy.
Bonjour. Acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui. Des actions en cours. Dès ce matin, nous serons à Nantes dans un instant. De plus en plus de Français prennent de la cocaïne. Plus d'un adulte sur 20 déclare en avoir déjà pris. C'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Et puis, victoire des Bleus face à l'Irlande hier soir en éliminatoire de l'Euro 2024 de football. Benjamin Pavard en buteur, Mike Maignan en sauveur.
10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui.
Et beaucoup de monde attendu dans les rues. 650 à 900 000 manifestants devraient se réunir selon une note des renseignements. Au moins 150 rassemblements sont prévus à travers le pays. Une nouvelle journée de mobilisation sous haute surveillance. Le climat est tendu avec la crainte de débordement. Dispositif policier important qui sera déployé. 13 000 membres des forces de l'ordre, dont 5 500 à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit craindre la venue de manifestants radicaux.
Ces éléments radicalisés tentent de prendre en otage les cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang.
Journée spéciale sur RMC aujourd'hui, on vous fait vivre cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Allons sur le terrain sans attendre parce que c'est là que ça se passe, des actions sont en place dès ce matin. On rejoint Marion Gauthier en direct. Marion, vous êtes à Nantes pour RMC, vous êtes au rond-point de la Jeanvraie, c'est à l'entrée ouest de la ville. Une centaine de manifestants qui sont en train de ralentir la circulation.
Oui, ils sont arrivés cagoulés, traînant poubelles et palettes. Ils ont allumé des feux dès 6h30, monté des barricades à chaque sortie du rond-point. Un groupe vient de monter bloquer également le périphérique. J'aperçois les voitures arrêtées sur le pont au-dessus de la route. Bouchon déjà assez important et il va falloir prendre son mal en patience. Les militants ne doivent lever le blocage qu'après 9h. Il y a déjà eu quelques accrochages avec des automobilistes, mais la plupart sont compréhensibles. J'ai croisé un jeune électricien qui me disait avoir déjà été bloqué 2h30 la semaine dernière lors d'une semblable opération. C'est long, mais pour la bonne cause, clamait une quinquagénaire, quelques klaxons de soutien. Les manifestes, ça ne suffit plus, me glissait un enseignant. Les blocages matinaux, ça permet de protester sans forcément faire grève et perdre une journée de travail.
Marion Gauthier, envoyée spéciale RMC à Nantes. Merci Marion. Côté transport, la SNCF prévoit aujourd'hui 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2 et attention, 1 intercité sur 4 seulement sur les rails. Côté politique, enfin, Emmanuel Macron assure vouloir continuer à tendre la main aux syndicats sans toutefois remettre en cause la réforme des retraites. Le président de la République qui a accusé hier la France insoumise de vouloir délégitimer l'ordre raisonnable et les institutions. RMC 7h34, les pénuries d'essence touchent aujourd'hui plus de 15% des stations-service du pays selon le gouvernement. Et cette question ce matin sur RMC, certains en profitent-ils pour augmenter les prix à la pompe? De fortes disparités sont constatées par les automobilistes dans les Bouches-du-Rhône notamment. Reportage de Lionel Dian à Marseille où plus de 40% des pompes sont touchées par des pénuries.
Quand elles parviennent à être approvisionnées, certaines stations-service marseillaises affichent des prix largement au-dessus de la moyenne, comme l'a constaté Chaïma.
2,15 € pour un litre de 98, c'est cher. Mais bon, est-ce qu'on a le choix? Je préfère même plus regarder les prix. Plus ça va, plus ça monte.
Mohamed aussi voit les prix grimper et commence à se poser des questions.
2,01 €, 2,03 €, 2,05 €, ça dépend des stations. Pour du gasoil, voilà, ça commence à devenir excessif. Je comprends très bien que les gens veulent faire un petit peu de spéculation là-dessus, mais c'est aberrant.
Du côté de l'Union française des industries pétrolières, on réfute toute spéculation. Selon son président, Olivier Gantois, les disparités dans les prix seraient dues aux répercussions de certains blocages.
Ce sont des surcoûts logistiques liés à des blocages qui font que le camion parcourt davantage de kilomètres pour livrer la station et non pas à la spéculation ou autre chose. Par exemple, la semaine dernière, certains camions, au lieu de charger à Fos-sur-Mer, sont allés charger à Port-la-Nouvelle. Ça leur faisait plus de kilomètres pour aller jusqu'à la station dans laquelle ils étaient censés livrer.
Des surcoûts dus aussi aux longues attentes auxquelles sont parfois soumis les chauffeurs de camions-citernes devant les dépôts de carburant.
J'en profite pour vous rappeler que c'est la dernière semaine pour demander l'indemnité carburant, 100 euros pour les travailleurs modestes. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour vous inscrire. Ça se passe sur le site des impôts. Moins de nitrite dans les lardons, les rillettes ou le jambon. Le gouvernement a demandé hier aux industriels de baisser rapidement les doses dans les charcuteries. Ce plan d'action prévoit des baisses immédiates d'additifs nitrés d'environ 20% d'ici un mois. C'est assez rapide. Le lien entre risque de cancer et exposition aux additifs nitrés a été de nouveau prouvé récemment. Ce plan déçoit d'ailleurs l'association Foodwatch et la Ligue contre le cancer qui demandait l'interdiction totale de ces additifs. La consommation de cocaïne augmente en France. C'est le résultat d'un rapport publié hier par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Après le cannabis, la cocaïne est donc le produit illicite le plus consommé en France, avec 600 000 usagers dans l'année. C'est trois fois plus qu'il y a 20 ans. Indicateur inquiétant également, en une dizaine d'années seulement, le taux de passage aux urgences pour avoir consommé de la cocaïne a été multiplié par 4. Reportage de Romain Poiseau.
Il y a 5 ans, Noémie, 36 ans, consommait de la cocaïne très régulièrement.
C'était 2-3 fois par semaine. Ça allait jusqu'à 2 grammes toute seule dans une soirée, quoi. J'ai perdu beaucoup d'argent et puis je me suis éloignée de mes amis. J'ai fait une tentative de suicide. La plupart des gens, ils disent « Non, mais moi, c'est bon, c'est que de temps en temps en soirée. » Mais en fait, ça commence comme ça.
La cocaïne qui, aujourd'hui, est omniprésente, selon elle.
Une fois qu'on a contacté un dealer avec son numéro, j'ai reçu pendant 2 ans, je pense, après avoir arrêté des textos avec promotion. C'est dangereux parce que c'est fourbe.
Chaque semaine, 72 personnes sont prises en charge aux urgences après des complications liées à la consommation de cocaïne.
La question qu'on pose systématiquement dans les douleurs thoraciques et les infarctus, c'est « Est-ce que vous avez pris de la cocaïne ?»
Patrick Peloux, président de l'association des médecins urgentistes.
La cocaïne, elle est présente partout. Par exemple, l'autre jour, c'était un boulanger qui se fait des rails de coke parce qu'il n'arrive pas à se lever le matin. Ça va au peintre qui tombe de sa nacelle de 15 étages. On est totalement submergé par cette crise.
Dans 2/3 des cas des passages aux urgences, la cocaïne est associée à une autre substance comme l'alcool, le cannabis ou des opioïdes.
Football, 2 matchs, 2 victoires pour les Bleus.
Oui, victoire 1-0 hier face à l'Irlande, match compliqué à Dublin, mais victoire donc dans le cadre de ces éliminatoires à l'Euro 2024. Après avoir gagné contre les Pays-Bas vendredi, les joueurs de Didier Deschamps enchaînent donc. Victoire grâce à une belle, très belle frappe de loin signée Benjamin Pavard.
Je sens plutôt bien le coup, j'intercepte et après je me pose pas de questions, elle part bien. Beaucoup de bonheur, j'attendais depuis un certain temps. C'est vrai que j'ai connu des moments pas très faciles, mais moi je me suis réfugié dans le travail et moi ce but je dédicace à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ces moments-là et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur.
Voilà, pas très expansif Benjamin Pavard, euphorique, mais très concentré le défenseur français. Victoire grâce aussi, il faut le rappeler, à cette belle parade de Mike Maignan, gardien des Bleus désormais en toute fin de match. La France première de son groupe avec 6 points. Prochain match pour les Bleus dans ces éliminatoires de l'Euro 2024. La France affrontera Gibraltar le 16 juin prochain et la Grèce ensuite le 19 juin.
Et puis le Quintet Plus, ça se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud à 13h50.
Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. L'As, le Montigny, l'outsider, le numéro 6. Medavi, l'As, le 6. Course à suivre, Quintet, RMC Découverte, tout à l'heure, 13h50.
C'était le journal de Rémi Inc. Il est 7h39 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Emmanuel Macron dit qu'il veut continuer, je cite, à tendre la main aux syndicats. Eh bien, on va voir avec vous si vous la saisissez. Bonjour Frédéric Souillot.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de Force Ouvrière, 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et vous la commentez sur RMC dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h41 sur RMC et RMC Story.
L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Frédéric Souillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de Force Ouvrière. 10e journée de mobilisation aujourd'hui, la 2e depuis le 49-3. La première depuis ce week-end ultra-violent à Sainte-Soline. Vous vous attendez à quoi ?
Ben, je m'attends à une forte mobilisation, une détermination des manifestants.
Une détermination des manifestants. Est-ce que le fait qu'on insiste beaucoup, notamment du côté du ministère de l'Intérieur, sur les risques de débordement de violence, sur la présence des Black Blocs, est-ce que vous redoutez que ça ne puisse décourager certains qui espéraient venir manifester ?
Alors, il y en aura certainement, mais pas beaucoup. La mobilisation, elle est massive et déterminée. On a fait le tour de nos unions départementales. On fait le tour de Paris. On sera vraiment beaucoup de monde dans la rue cet après-midi, oui. Et par la grève, il y a déjà des mouvements qui ont commencé ce matin.
Il y a des blocages hein, depuis ce matin. Est-ce qu'il y en a certains qui n'étaient pas prévus ?
Alors, c'est pas qu'ils n'étaient pas prévus, c'est qu'on les avait prévus, mais on les avait pas mis sur la place publique pour qu'on évite, notamment devant des centres d'incinération.
Il y a des rassemblements hein, ce matin devant des centres d'incinération, des blocages. Est-ce que c'est amené à durer, ça ? Est-ce qu'il y a un vrai regain de mobilisation du côté des grévistes ?
Alors, le 49-3 plus l'intervention du président de la République la semaine dernière, ben ça a un petit peu plus énervé et ben maintenant il faut qu'on aille jusqu'au retrait de la réforme.
C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui demandent, comme Laurent Berger, est-ce qu'il y a une pause, au minimum une pause ?
Mais quelle que soit la solution, c'est le retrait de la réforme et qu'on prenne enfin les choses par le bon bout. C'est ce que nous avons expliqué à l'exécutif depuis le mois d'octobre. On veut bien me parler de travail, d'emploi, et après de retraite, et en parlant de travail et d'emploi, on prouvera, on montrera qu'il n'y a pas besoin de réforme de retraite avec un recul de l'âge de départ.
Mais Frédéric Souillot, vous faites partie de cette intersyndicale qui est unie depuis deux mois avec Force Ouvrière. Vous êtes aux côtés de la CFDT, de la CGT. L'Élysée dit avoir appelé Laurent Berger, ce serait le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère, qui aurait passé un coup de fil à Laurent Berger. Est-ce qu'ils vous ont appelé, vous aussi ?
Eh bien non.
Eh bien non.
Bah, alors, je vais peut-être retourner mon portable à l'antenne, non ?
Oui, c'est ça, vous pourriez reprendre votre téléphone là, au cas où ils vous appellent. Vous pensez qu'ils vont vous appeler ou vous vous dites, vous n'en attendez rien ?
Non, j'en attends rien. Alors peut-être qu'ils ont appelé Laurent Berger.
On n'a pas le récit de ce coup de fil, on ne sait même pas si Laurent Berger a décroché, pour tout vous dire.
Je sais pas, et moi, ils ne m'ont pas appelé. Parce que aujourd'hui, quand j'entends le gouvernement ou le président tend la main. Bon, hier, on a fait une contribution extérieure, toutes les organisations syndicales, pour informer le Conseil constitutionnel, lui donner notre vision des choses et lui demander d'abroger la loi. Donc, il a beau tendre la main, le président de la République, il fallait qu'il y pense avant. On lui a écrit et il nous a répondu non, fin de non-recevoir. Et puis après, il nous méprise en réécrivant l'histoire. Donc, y a pas de sujet, la mobilisation et la grève.
Donc, ça veut dire que quand il dit « je veux continuer à tendre la main au syndicat », vous vous dites « il nous l'a jamais tendu vraiment, quoi ».
Moi, je l'ai rencontré une fois avant le premier tour des élections législatives, quand il essayait de récupérer quelques voix à gauche en réunissant les organisations syndicales. Tant est qu'on est tous de gauche. Hein. Et depuis... on n'a pas de lien avec le président de la République, aucun. Et on lui a écrit officiellement pour lui demander de nous recevoir, pour lui dire que la situation allait devenir explosive socialement. La colère est légitime, les violences non.
Donc ça veut dire aujourd'hui que vous n'avez pas de contact direct avec l'Élysée, que quand il dit « je veux tendre la main », il va dire, du point de vue de l'exécutif, ils vont dire que vous refusez cette main tendue. Ça vous fait rigoler ?
Ça me fait sourire puisque pourquoi ils n'ont pas saisi la main des organisations syndicales où on l'a dit, on lui a écrit officiellement et il nous répond non, l'Élysée est fermée. Alors ça va, maintenant il nous reparle depuis la France parce que pendant deux mois, il nous a parlé que depuis l'étranger et plus jamais...
Depuis la France, il y a évidemment ce moment très attendu qui est ce mois où le Conseil constitutionnel délibère et va rendre sa décision, son avis sur cette loi. C'est aussi d'ailleurs ce qui justifie aux yeux d'Emmanuel Macron le fait de ne pas reparler des retraites, parce qu'il dit qu'il vous tend la main, mais pour parler de tout sauf des retraites,
ouais, bien sûr.
Parce que, dit-il, on doit attendre la fin du processus constitutionnel. Vous avez, et vous l'avez dit, écrit avec les autres organisations syndicales pour saisir le Conseil constitutionnel, pour l'informer de votre position. Vous faites partie aussi de ceux qui dénoncent la position de Jacqueline Gourault, qui est l'une des 9 membres du Conseil constitutionnel. Vous demandez sa mise en retrait. Vous n'allez pas vous mettre à choisir les membres du Conseil constitutionnel au milieu du processus ?
Ce serait peut-être pas une mauvaise idée que la démocratie sociale, les organisations syndicales en choisissent. Non, j'étais...
Parmi les membres, en effet, ils sont nommés par le Premier ministre, par le Président, par le Président de l'Assemblée.
Nationale et...
Mais en effet, vous n'avez pas droit au chapitre.
Non, mais on demande un déport. C'est souvent que ça arrive. Quand vous êtes juge sur une affaire et que vous y avez pris part à un moment ou à un autre, vous devez vous déporter, ça s'appelle de la conscience.
Pourquoi Jacqueline Gourault ?
Parce qu'elle était dans le gouvernement juste précédent et elle défendait déjà la réforme des retraites voulue par le président de la République en 2019, le régime unique et tout cela.
Mais est-ce que veut dire que vous préparez déjà les esprits pour considérer que l'avis du Conseil constitutionnel ne serait pas neutre ?
Non. Ah non, on ne prépare pas les esprits à ça. On respecte les institutions. Mais on explique en le disant. Au Conseil constitutionnel, vous voyez, Madame Gourault, par exemple, et il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs, il pourrait y en avoir d'autres, ce serait bien qu'elle se déporte.
Juste, Frédéric, c'est quoi la suite, là ? Ce soir, il y aura du monde aujourd'hui dans la rue, on redoute des violences. Ce soir, vous vous réunissez avec les autres syndicats, vous allez décider une nouvelle journée, il y a déjà des journées de grève, de mobilisation à prévoir dans les jours qui viennent ?
À moins que il y ait un éclair de conscience du côté de l'Élysée et de Matignon et qu'il retire sa réforme cet après-midi, ce soir on va se voir en intersyndicale et on va continuer d'appliquer la stratégie que nous appliquons depuis le 19 janvier.
Ça pourrait durer combien de temps?
Bah ça pourrait ça durera jusqu'au retrait de la réforme.
Jusqu'au retrait de la réforme, jusqu'à ce qu'il plie. Il n'y a que ça comme sortie de crise.
Mais en même temps, là on emploie le terme plier et tout cela. Si le président de la République avait souhaité ou voulu en sortir par le haut, bah, il dirait pas maintenant je tends la main et venez, on parle de tout, je siffle la fin de la récréation et on tourne la page. On l'avait prévenu de cela. Et on lui avait dit que l'explosion sociale...
Vous aviez prévenu, vous, mais, Laurent Berger, Philippe Martinez...
Oui, mais on l'avait même écrit dans les communiqués. Ben oui. Donc, ben maintenant, il n'y a pas deux solutions.
Il n'y en a plus qu'une, c'est de retirer le texte. Frédéric Souillot, merci d'être venu dans ce studio à l'aube de cette grande journée de mobilisation. Donc aujourd'hui, vous le dites, il y a un regain de mobilisation. Vous êtes le secrétaire général de Force Ouvrière. Il est 7h49 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et justement, on vient d'en parler de ce risque de violence aujourd'hui dans les cortèges. Quelle sera la stratégie de maintien de l'ordre? Quelle est la doctrine? Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, c'est dans un instant sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Le monde du rap lance sa propre cérémonie.
Les Flammes, c'est le nom de cette cérémonie, cette remise de prix qui aura lieu le 11 mai prochain au Théâtre du Châtelet. Une sorte de réponse aux traditionnelles victoires de la musique qui, tous les ans, ont tendance à bouder ce qu'on appelle les musiques urbaines, comme le rap ou le R&B. Et parmi les nommés pour Les Flammes, le 11 mai prochain, on trouvera par exemple Tiakola. Il n'a pas remporté de victoire de la musique cette année alors que son album a fait un carton. Il est donc nommé à 11 reprises à l'occasion des Flammes. On peut aussi citer des chanteuses comme Ronisia ou encore une certaine Aya Nakamura. Cette nomination pour l'une, 5 pour l'autre. Parmi les rappeurs stars qui étaient aussi absents des victoires mais qui sont nommés pour les Flammes, on peut aussi citer Gazo. Et tous ces artistes ont un point commun, ils vendent des millions de disques mais sont snobés par les victoires de la musique. Ils seront donc à l'honneur de cette cérémonie des Flammes. Les internautes peuvent voter jusqu'au 10 avril pour les départager. Et ensuite, il y aura donc la remise des prix le 11 mai prochain. Les organisateurs espèrent attirer des stars du cinéma, du sport ou de la mode pour remettre les récompenses sur scène. Un certain Kylian Mbappé, par exemple, aurait déjà été approché. On achète, on revend, on arrête, on
répond. Avec un peu de bien et de mal, on est fait. RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Alors expliquez-nous, Nicolas. Un dispositif policier important va être déployé aujourd'hui dans toute la France face aux manifestations contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur craint un haut niveau de violence.
Oui, Gérald Darmanin a fait savoir hier qu'il se préparait au pire. Il annonce la présence de plus de 1000 éléments radicaux dans les cortèges, pas seulement à Paris. Il cite aussi Lyon, Rennes, Nantes, Dijon ou Bordeaux. Il dénonce par avance la violence de l'ultra-gauche qui pourrait être alimentée par ceux qui étaient le week-end dernier à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, dont une partie viennent de l'étranger, si on en croit le ministre de l'Intérieur. Par conséquent, c'est un dispositif de 13 000 policiers et gendarmes qui est mis en place, dont 5 500 à Paris. Cela représente 90 unités de gendarmes mobiles ou de CRS. Dispositif inédit, affirme Gérald Darmanin. En réalité, c'est bien le plus imposant depuis le début de ce mouvement, mais c'est loin d'être un record. En décembre 2018, pendant les Gilets jaunes, on avait déployé jusqu'à 89 000 gendarmes et policiers, 8 fois plus.
89 000 à ce moment-là, oui, donc c'est 8 fois plus. Enfin, cela dit, il est incontestable qu'on assiste à une montée de la violence.
Oui, incontestable en effet. Depuis l'utilisation du 49-3 le 16 mars, il y a eu une dizaine de jours, ou plutôt une dizaine de soirs d'affrontements à Paris et en région, avec beaucoup d'incendies volontaires. Il y a eu de très violents affrontements à la fin de la manifestation parisienne jeudi dernier, et puis les scènes de guérilla ce week-end autour de la bassine de Sainte-Soline. En tout, depuis le 16 mars, le ministère de l'Intérieur a dénombré 2000 incendies, 128 bâtiments publics attaqués et 891 blessés parmi les forces de l'ordre. On n'avait pas connu cela depuis le mouvement des Gilets jaunes.
Mais à la violence des manifestants a répondu la violence des forces de l'ordre.
Oui, c'est ce que dit le Conseil de l'Europe. La commissaire aux droits de l'homme dénonce l'usage excessif de la force par les agents de l'État français. Elle estime qu'un État a le droit de faire usage de la force, mais seulement en dernier ressort et seulement de façon proportionnelle, ce qui visiblement n'a pas été le cas lors des affrontements de jeudi dernier dans le quartier de l'Opéra à Paris. Le Conseil de l'Europe estime que la violence, d'où qu'elle vienne, ne saurait être utilisée comme un moyen de résoudre une crise sociale. Et la commissaire regrette le retour de pratiques qui avaient déjà suscité son inquiétude lors du mouvement des Gilets jaunes.
Quelles sont ces pratiques qui sont donc jugées inquiétantes?
Alors, c'est la doctrine mise en place par le préfet Lallemand, nommé préfet de police de Paris pendant la crise des Gilets jaunes, choisi justement pour sa fermeté. Il avait théorisé la doctrine du contact, c'est-à-dire de la police au contact direct des manifestants et des fauteurs de troubles, ajouté à un large usage des gaz lacrymogènes, des LBD, des balles de défense, des contrôles d'identité, des gardes à vue, ou encore la pratique des NAS, c'est-à-dire l'encerclement de groupes de manifestants.
Mais la France n'a pas le monopole de ces violences-là.
Non, si on prend le seul exemple des NAS, les polices allemandes et anglaises les avaient inventées bien avant nous, il y a plus de 30 ans. Il y a 20 ans, les manifestations contre le G8 à Gênes, en Italie, avaient fait un mort et 600 blessés. Mais un spécialiste de ces questions, Olivier Filleul, explique dans Le Monde que la plupart des pays européens, depuis une vingtaine d'années, ont réussi une politique de désescalade en collaborant entre eux et en échangeant leurs expériences, alors que la France s'est maintenue en dehors de ce groupe de pays et s'est au contraire raidie. Il y a longtemps eu un savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre, parce que la France s'était dotée très tôt d'unités spécialisées et professionnelles, les gendarmes mobiles créés dans les années 1930, les CRS en 1945, et leur professionnalisme était souvent salué. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, la France n'est certainement plus un modèle. Aucun autre pays européen ne déplore autant de blessés lors des mouvements sociaux. Beaucoup trop de blessés graves des deux côtés.
Nicolas Poincaré et ses explications, c'est tous les jours à 7h50 sur RMC et à tout moment sur l'appli RMC et en podcast. Dans un instant, la météo et le journal de 8h avec à la une ce témoignage, vous l'entendrez, d'un Black Bloc. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.